Il m'incombe la lourde tâche d'essayer de faire la synthèse de cette journée, mais comme disait Anne-Marie ce matin à propos de son titre, après tout, c'est moi qui l'ai voulu. Je vais peut-être revenir un petit peu sur le thème de la journée. Donc, quand on a l'idée au départ était de vous présenter des résultats d'études récents, et le thème de l'image est venu tout de suite, tout bêtement, parce qu'il n'y a pas d'enquête sur les bibliothèques qui ne ramènent pas des informations sur l'image des bibliothèques. L'enquête dont Anne-Marie a parlé plusieurs fois ce matin, menée par Bruno Maresca, se terminait même par des injonctions à la matière. Bibliothécaire, faites quelque chose, changez l'image de la bibliothèque, elle ne correspond plus à ce que sont actuellement les bibliothèques. Donc c'est, me semble-t-il, le moment de faire un point sur cette question, un moment où d'ailleurs on n'est pas les seuls à s'intéresser à ça, puisqu'il va être question sans doute très largement d'image au congrès de l'ABF prochainement. À Lille, c'est important parce que il se passe des choses actuellement et l'intervention d'Anne-Marie était très précieuse, comme d'habitude, notamment à cet égard, de poser le cadre de cette question de l'image des bibliothèques qu'on a vu évoluer au cours des dernières années. Donc, entre une image qui a toujours été un peu confuse, entre la boulangerie où on va chercher son pain, la cathédrale soumise à un rituel, et maintenant avec un nouvel acteur, l'arrivée d'Internet. Anne-Marie a insisté à juste titre sur l'importance de cette question d'image, à la fois pour la fréquentation, parce qu'en fait, on fréquente ou on ne fréquente pas en fonction de l'image qu'on a de la bibliothèque. En résumé, tous les intervenants l'ont plus ou moins évoqué, la question est-ce que c'est un lieu pour moi, est-ce que il a l'image d'un lieu pour moi ou pas. Et c'est tout à fait crucial dans la fidélisation à la bibliothèque. C'est aussi important pour les politiques, l'idée étant, c'est effectivement de savoir si les politiques sont convaincus de l'utilité de la bibliothèque. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant parce qu'il me semble qu'il y a une époque où l'utilité de la bibliothèque se posait moins, me semble-t-il. L'enquête de Maresca concluait à un consensus général des Français sur l'utilité de la bibliothèque, qui confirmait une enquête sur l'image et l'expérience de la bibliothèque qu'Anne-Marie avait elle-même pilotée dans les années 90. L'utilité de la bibliothèque faisait consensus. Pour autant, elle était peu fréquentée. C'est-à-dire que c'était un endroit qui est utile pour les autres, les jeunes, les pauvres, les amateurs de livres, etc. Pas pour soi, mais utile pour les autres. Et là, il semble que les choses ne sont plus si claires et qu'il faut convaincre d'abord les élus et aussi les usagers de l'utilité de la bibliothèque. Pour convaincre de l'utilité, encore faut-il qu'elle soit effectivement utile et qu'elle ait une politique claire. Ça, je crois que c'est un principe de marketing de base, c'est-à-dire qu'on communique bien sur quelque chose qui a des caractéristiques précises, une personnalité forte. Et donc, pour communiquer sur la bibliothèque, encore faut-il que la bibliothèque ait elle-même une politique claire. De ce point de vue-là, Anne-Marie a été très précise. Je la cite, j'ai noté, à oublier, voire à dénier leur rôle éducatif, les bibliothèques courent un grave danger. Donc, effectivement, il y a toujours cette tension qu'on voit entre la bibliothèque lieu de loisirs et la bibliothèque lieu d'études, la bibliothèque de mémoire, bibliothèque du patrimoine et la bibliothèque lieu de vie. En fait, on sait bien que c'est la même chose, enfin que c'est les deux choses à la fois, mais c'est toujours très compliqué de ne pas tirer d'un côté ou de l'autre. Donc il s'en est suivi une discussion intéressante entre Anne-Marie Bertrand et Patrick Bazin sur la bibliothèque lieu du stock ou lieu du flux. Je pense que de toute façon, Patrick Bazin et Anne-Marie Bertrand étaient d'accord, c'est ce qui a fini par ressortir de leurs échanges. Lieu du stock, certes, c'était un lieu de la réflexion, lieu du recul, lieu de l'étude aussi, mais un stock dynamique mis au service de la fonction cognitive de la bibliothèque, un lieu de co-construction du savoir entre les usagers et les bibliothécaires. Nous avons donc ensuite entendu Denis Merclin, qui a rebondi sur cette question du politique. mais qui a d'abord à rappeler le choc qu'a été le fait que des bibliothèques soient brûlées au cours des émeutes, qui montre bien que la bibliothèque conserve dans la société actuelle cette image de lieu sacré dans lequel le feu est une agression, une souillure. C'est quelque chose qui remonte à la bibliothèque d'Alexandrie et qui est toujours actuel. Cependant, il a montré que les bibliothèques sont aussi ne sont pas un lieu hors du monde, mais un lieu qui, au contraire, entretient un lien très fort avec le territoire et avec les quartiers, dans le cas des bibliothèques qu'il étudie. C'est donc, en fait, un jeu à plusieurs inconnus, à plusieurs participants. Il y a les politiques, il y a les habitants du territoire, il y a les usagers et les bibliothécaires. Mais tout ça se déroule sur un territoire précis qui impacte sur la bibliothèque, mais la bibliothèque elle-même impacte sur le territoire et sur son image. Les élus et les bibliothécaires essaient de faire passer des messages à travers le dispositif de la bibliothèque, et en particulier à partir de son nom. Il y a eu donc... c'est effectivement la façon dont on nomme la bibliothèque, dont les élus et les bibliothécaires décident de nommer la bibliothèque, c'est un message extrêmement fort qui dit des choses sur ce que doit être la bibliothèque, ce qu'on veut que soit la bibliothèque. À charge pour les usagers, on l'a vu l'après-midi, de la débaptiser, de la rebaptiser autrement, s'ils ont une autre vision de la bibliothèque. Ce message que l'institution fait passer, donc au travers de la façon dont elle se nomme, elle se présente, son règlement, qu'a rappelé Anne-Marie, qui peut être parfois très caricatural, passe aussi par le dispositif matériel et donc en particulier par les couleurs. Donc, Hélène Valotto nous a montré les dernières avancées en la matière. On voit que également une évolution. On est passé des bibliothèques traditionnelles où seules les bibliothèques pour enfants étaient colorées, alors que les lieux d'études étaient plutôt des lieux de la non-couleur. Et les choses sont en train de changer. La bibliothèque essaie de communiquer à travers son dispositif chromatique qu'elle est un lieu hospitalier, un lieu de vie, un lieu qui est dans l'air du temps, qui suit des effets de mode, et surtout, qui... Oui, ça c'est terrible, ça m'est arrivé récemment, ne t'inquiète pas.
Mange-le.
un lieu, la couleur est une façon pour la bibliothèque d'affirmer ce qu'elle est. Et à cet égard, la magnifique citation que nous a lue Hélène Valotto de l'architecte Riboulet était vraiment... quelque chose que je relirai avec plaisir, peut-être vous-même aussi, sur le site de la bibliothèque. Nous nous sommes un peu recentrés ensuite sur un établissement particulier, sur un type d'usager particulier. Tout d'abord, nous nous sommes recentrés sur les usagers, puisque jusqu'à présent, on avait envisagé l'image de la bibliothèque de manière plus générale dans la population, qu'elle soit usagère ou non de la bibliothèque. Nous avons donc entendu successivement Christophe Evans et Philippe Galanopoulos nous parler des étudiants, des lycéens et des étudiants. Et là, nous avons retrouvé des choses situées qu'on avait déjà entendues le matin. L'importance du nom et cette tension entre le lieu d'étude, le lieu patrimonial et le lieu de culture. Très clairement, pour l'instant, la BPI, c'est bien sûr un lieu de vie. Ça, c'est ce qui a été très clair dans l'intervention de Philippe Galanopoulos. La BPI, c'est une bibliothèque. La BPI ou une autre, ça n'est pas simplement des livres, ça n'est pas simplement des bibliothécaires, ce sont des gens. Et les autres, c'est aussi les autres usagers. Donc, c'est un lieu de vie, certes, mais c'est aussi un lieu d'études, un lieu de travail, un lieu de retraite, a dit Christophe. Qui n'aime pas beaucoup le cloître, bon, d'accord, mais c'est quand même c'est un lieu de contrainte, je dirais presque de travail au sens étymologique du terme. C'est une espèce de torture. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une contrainte qu'on s'impose à soi-même. D'autres études qu'on a menées sur le terrain de la bibliothèque montrent que, en fait, on vient à la bibliothèque pour se mettre dans un autre état d'esprit, pour se couper des tentations de la vie ordinaire, par exemple Facebook, alors qu'il est tout à fait possible de consulter Facebook à la bibliothèque. Simplement, on se met dans un autre état d'esprit et on ne le fait pas à la bibliothèque. Donc, c'est effectivement un grand service que rendent les bibliothèques aux lycéens, qui se préparent ainsi à la vie étudiante, aux étudiants qui ont besoin d'un lieu justement où ils peuvent se recadrer, comme l'a dit Christophe. Donc c'est un, je pense que c'est un, enfin je suis intimement persuadée que c'est un service énorme que les bibliothèques publiques, quelles qu'elles soient, rendent à la collectivité en accueillant ces populations qui viennent effectivement pour travailler sur place à la bibliothèque sans utiliser les collections, ce qui désespère un peu les bibliothécaires. À juste titre, quand même, parce que c'est vrai que c'est un peu malheureux de voir que, en fait, ils passent à côté de toute une gamme de services qu'offrent les bibliothèques, et que du coup, comme l'a très bien monté Christophe, ils ne viennent que pour ça, et une fois terminé, une fois le diplôme en poche, ou le bac en poche, ils se tournent, ils ne voient pas très bien l'utilité de revenir à la bibliothèque. Alors, c'est une question qui préoccupe nos directeurs successifs, je dois le dire. Patrick Bazin vous en a un petit peu parlé ce matin. Il entend également prendre à bras-le-corps ce problème. Il a donc mis en place un projet d'établissement, dont je vais vous dire quelques mots, ainsi que l'a indiqué Christophe. Pour revenir un peu sur conserver les atouts de la bibliothèque, il n'est pas du tout question de chasser les étudiants, mais modifier quand même, revenir quand même aux fondamentaux de la BPI, qui est une bibliothèque ouverte à tous, ne l'oublions pas, pas une bibliothèque étudiante, et qui est une bibliothèque qui a mission d'actualité, chose qui est, mais alors, complètement absente des représentations des usagers. On a mené beaucoup d'enquêtes sur le terrain de la bibliothèque, à commencer par les habitués, enfin une enquête qui s'appelle Les Habitués, qui avait été lancée par Anne-Marie d'ailleurs, où on revoit toujours revenir des images de la bibliothèque qui sont toujours actuelles, d'un lieu démocratique, ouvert à tout le monde, un lieu de liberté, un espace de savoir, une caverne d'Ali Baba. Bon, à certains moments, on a l'impression d'entendre des motions de la BF, hein, un lieu d'ouverture, de liberté, de savoir, etc. Tout ça est extrêmement positif. Ce qui est un peu moins positif, c'est l'image qui devient une image paradoxale qu'on voit émerger de plus en plus maintenant, c'est-à-dire que c'est une bibliothèque ouverte à tous, mais on ne peut pas entrer à cause de la file d'attente. Donc ça, c'est quand même un petit peu ennuyeux. Donc le projet d'établissement doit s'attaquer aussi à cette image, non seulement à cette... à ce problème de la file d'attente et à l'image qui est attachée à la bibliothèque et qui est assez désastreuse à cause de cette file d'attente, renouer avec la mission d'actualité de la bibliothèque et prendre en compte aussi l'accueil des jeunes. L'accueil des jeunes générations, c'est-à-dire il n'est pas question de recréer la bibliothèque pour enfants qui avait été, qui existait à l'ouverture de la bibliothèque, le constat ayant été dressé dans les années 90, que les bibliothèques pour enfants étaient plutôt des équipements de proximité. Mais pourtant, il faut accueillir les familles accompagnées d'enfants. Par ailleurs, le projet est de créer, dans cette fameuse mezzanine que personne ne voit, c'est-à-dire le premier niveau de la bibliothèque, un espace dédié aux nouvelles générations. Donc, pas un espace adolescent, au sens classique du terme, pas un espace dédié à une tranche d'âge, un espace dédié à des nouvelles pratiques, des pratiques qui sont portées par les jeunes générations, c'est-à-dire les jeunes adultes et les générations qui les suivent. Un espace plus convivial, effectivement, moins réglementé que la bibliothèque, où on peut parler à voix haute, on peut téléphoner, on peut échanger. Un espace où on peut avoir un loisir culturel plus détendu, jouer à des jeux vidéo, lire des ouvrages de cette littérature passerelle qui est un créneau éditorial. Bref, un espace qui doit permettre pas vraiment d'attirer un nouveau public, mais d'attirer par exemple des lycéens en dehors de la période du bac, pas pour préparer le bac. Un espace qui peut se fixer aussi comme autre objectif de les familiariser avec la bibliothèque, de les aider dans cette opération de grandissement de soi dont Christophe a parlé. De leur offrir un espace de loisirs culturels qui peut également correspondre aux jeunes adultes qui sont présents en masse dans la bibliothèque, puisqu'en fait, actuellement, 54% de nos publics a entre 18 et 24 ans. Et donc, l'idée est de leur montrer qu'on peut faire autre chose à la bibliothèque que de travailler sur ses cours. C'est aussi l'idée que cet espace peut être un lieu d'expérimentation. On a l'intention de le suivre de près à études et recherches et de partager ces expériences avec les autres collègues en lecture publique. On pense faire des journées d'études assez régulièrement sur cette question de l'accueil des jeunes générations en bibliothèque. Mais enfin, pour le groupe de travail dans lequel nous nous sommes beaucoup investis, Christophe et moi, et qui travaille sur cet espace nouvelle génération, l'enjeu principal, c'est vraiment une question de changer l'image de la BPI, de lui donner, de qu'elle soit maintenant autre chose que donc cette bibliothèque ouverte où on ne peut pas entrer.
Merci. Donc, il m'appartient, après l'intervention de Françoise, de procéder à la conclusion de la clôture ou à la clôture de la conclusion. Je ne sais pas dans quel sens je dois le dire. Donc, après que Françoise ait fait cet exercice difficile de la synthèse, exercice difficile parce qu'on a vu aujourd'hui un panorama très large, hein, avec un grand nombre de sujets, de thèmes, d'objets. On a parlé évidemment des images, de symboliques, des lumières, de politique, d'incendie, de caillassage, de Gulliver et Ulysse, Don Quichotte, McDo, les couleurs, les non-couleurs, les ombres blanches, le collage, la pesanteur, le rouge, jaune, bleu. Il y a la diagonale sociale, j'adore. Parme, violine, prune, le vert pomme de la BPI, petit moment de nostalgie. Les bouffons, la sociabilité studieuse, le rite de passage, le gris clair et le gris foncé, la distance culturelle, les hypothèses, la contrainte par corps, le défouloir, Beaubourg et Bob, le père Fouras, le black dandy, les marginaux, les schizophrènes, tout et n'importe quoi. Je cite Philippe Galanopoulos. Ça a été donc une journée multiple, diverse, colorée, lumineuse, de mon point de vue intéressante, vraiment constructive, pertinente. Et donc, quand la BPI et l'ENSIB ont discuté pour construire ce dispositif, on avait raison. Et donc, je pense qu'on va renouveler cette expérience l'année prochaine. Sur quel thème, évidemment, il est trop tôt pour le dévoiler, puisque c'est un thème qui sera lié à l'actualité des études et de la recherche. Et donc, l'actualité de mai 2011 ne sera pas l'actualité de l'année 2012. Et donc, vous le saurez plus tard. Mais en toute hypothèse, je pense que vraiment, il faut renouveler cette expérience. Et donc, il me reste, pour finir la conclusion de cette clôture, à remercier tout le monde, en particulier les équipes de la BPI qui ont organisé de façon très efficace l'accueil de cette journée. Évidemment, remercier Patrick Bazin, remercier l'équipe de l'ENSIB qui a contribué à cette organisation, remercier tous les intervenants et bien entendu, vous remercier, vous, participants, pour votre écoute attentive et vos questions pertinentes. Merci et donc à l'année prochaine.